France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Ardente, romanesque, naïve, exaltée, révoltée, désespérée. C'est Emma Bovary.
Et si à tous ces qualificatifs, il en manquait un ? Et si le personnage de Gustave Flaubert n'était pas seulement naïf, exalté, révolté ou désespéré, mais bête ? Mais oui, obsédé par le fantasme d'une autre vie et passant à côté de la sienne, Emma Bovary serait-elle le personnage le plus bête de la littérature ?
Comme il me tarde d'avoir fini la Bovary pour entrer dans une période nouvelle, pour me foutre une bosse de beau pur.
Que j'ai hâte donc d'avoir fini tout cela pour me lancer à corps perdu dans un sujet vaste et propre. J'ai des prurites d'épopée. La Bovary, qui aura été pour moi un exercice excellent, me sera peut-être funeste comme réaction, car j'en aurais pris, ceci est faible et imbécile, un dégoût extrême des sujets à milieu commun. C'est pourquoi j'ai tant de mal à l'écrire, ce livre. Il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément.
Bonjour Delphine Jaillot.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes enseignant-chercheur en littérature française à l'université, j'espère bien le dire, de Eötvös-Loránd à Budapest.
Absolument.
Vous êtes membre du groupe Flaubert de l'ITEM-CNRS et membre de l'équipe du centre Gustave Flaubert de l'université de Rouen. Alors on vient d'entendre un extrait de la correspondance de Flaubert qui se disait répugné par ses personnages dans Madame Bovary. L'était-il par Emma Bovary elle-même ?
Alors certainement un petit peu, mais pas complètement. Et puis le fait d'être dégoûté après avoir passé 5 ans sur un livre, peut-être que c'est tout à fait normal. Et là, ce qu'il dit finalement de Madame Bovary, enfin du roman, et de ce dégoût, il le dira de ses autres livres aussi. Donc il prenait de toute façon beaucoup de temps à écrire, et certainement que le dégoût vient de là aussi. Alors après,
est-ce qu'il était dégoûté par le caractère d'Emma Bovary, ce qu'il a dessiné d'elle dans ce roman ?
Ça, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas parce que il invente quelque chose de formidable. D'ailleurs, sinon, on serait pas là en train d'en parler.
Oui, c'est vrai.
Et je crois qu'il a conscience d'avoir inventé quelque chose d'aussi extraordinaire, Il a pris du temps pour l'inventer et pour le concevoir. Et dans sa correspondance, il y a toujours un peu des pauses hein, quand il dit voilà que ça le dégoûte, qu'il en a marre.
Il en fait des tonnes, vous voulez dire ?
Oui.
Il exagère un peu,
certainement.
Alors qu'a voulu-t-il faire justement avec Emma Bovary ? Est-ce que sa correspondance le dit ? Qu'est-ce qu'il avait en tête avec ce personnage ? Parce que si on est encore là aujourd'hui à en parler, c'est vrai, vous l'avez dit, Delphine Jaillot, c'est que Emma Bovary pose problème. Certains l'adorent, d'autres la détestent. Certains la trouvent en avance, trop intelligente, d'autres la trouvent trop bête. Lui, Flaubert, qu'est-ce qu'il voulait faire avec Emma Bovary ?
Alors, il est allé certainement même plus loin que ce qu'il avait voulu concevoir au départ, parce qu'en effet, tout ce travail, forcément, ça construit quelque chose. Et donc, il l'a élaboré pendant longtemps. Et alors, dans sa correspondance, il y a pas mal de témoignages qui peuvent nous dire une chose ou une autre. Ce qui est important, je crois, que c'est qu'il avait une profonde empathie avec ce personnage-là, quoi qu'il en dise, hein, et même s'il dit que ça le dégoûte, la laideur le dégoûte, la médiocrité le dégoûte, mais ça, il a ça en partage avec son personnage, justement. Et donc, ce milieu médiocre dans lequel évolue Emma, peut-être que oui, ça lui a un peu tapé sur le système, parce que lui aussi détestait la médiocrité. Mais il partage aussi d'autres choses avec Emma, et euh, euh, ce, ce, éventuellement ce sentimentalisme dont il a dû se défaire. Voilà, c'est quelque chose qu'il partage avec elle. Et...
Est-ce qu'il le condamne alors ? Non, pas vraiment, parce que c'est toute la question en fait. Il faut peut-être déjà, avant tout, Delphine Jaillot, parce que je suis partie bille en tête en vous demandant ce que voulait faire Flaubert avec Emma Bovary pour qu'on essaye de comprendre l'essence d'Emma Bovary. Mais avant ça, le texte même d'Emma Bovary, de Madame Bovary, il faut quand même un petit peu le resituer, même si c'est un classique de la littérature française. Voilà, Flaubert nous raconte donc l'histoire de Emma Bovary, fille de paysan qui va dans un couvent et qui a des rêves de grandeur. Elle se marie et à partir de ce mariage, c'est un petit peu la descente aux enfers, mais pas vraiment une descente en fait. C'est qu'elle est dégoûtée, comme vous l'avez dit, par la médiocrité du monde qui l'entoure. Elle a envie de faste, elle a envie de beauté, elle a envie d'amour, elle a envie de passion. On l'a entendu dans la bande-annonce du film de Claude Chabrol qui a adapté le roman de Flaubert. Et elle est dans une perpétuelle déception. Est-ce que c'est ça le résumé de Madame Bovary? Ce qui nous donne quand même des pistes peut-être pour la définir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire une éducation. Alors elle est d'origine paysanne, elle a eu cette éducation au couvent. Ça, Flaubert insiste sur ses lectures, hein, les lectures d'Emma, la manière dont il en parle. Évidemment, on peut concevoir qu'il y a un lien de cause à effet, mais pas seulement parce que ses lectures sont. Alors, on posait la question, est-ce qu'elle est bête? Elle est en tout cas cultivée, puisqu'elle
l'a
éduquée, absolument. Et elle a eu même des très bonnes lectures, parce que Walter Scott, Balzac, George Sand, Chateaubriand, Lamartine, c'est pas si mal que ça. Hein, donc on a souvent l'habitude de dire, oh, voilà, les lectures, voilà, c'est la catastrophe après. Ça fait pas ça chez tout le monde. Alors, ok, elle a peut-être pas lu les philosophes grecs et le sens de la mesure ou le scepticisme, etc. Peut-être que ça lui a manqué dans son éducation, mais ses lectures donc sont importantes. Et puis le mariage arrive très vite, sans même dans toute cette première partie, dans les premiers chapitres, elle est presque absente. Hein. Elle est presque absente, Emma. On découvre après le mariage à la fois ce qu'il a constitué avant et puis ce qu'elle se met à vivre à ce moment-là. Donc il y a une déception assez vite. Oui, elle s'était imaginé quelque chose. Et puis, alors s'il faut parler de la bêtise d'Emma, il y en a une qui est liée à l'amour, parce qu'elle elle s'empêtre dans la question de l'amour, ça c'est évident. Qui
ne fait pas des erreurs là-dessus, qui ne se trompe pas.
Absolument, et puis donc il y a une forme de bêtise qui est peut-être une forme de confusion. Ça, Flaubert la condamne peut-être sur cet aspect-là. Une forme de confusion confondre le mot et la chose, par exemple. Hein, alors, il y a le mot amour, il y a le mot félicité, il y a le mot passion, ivresse. Et elle s'interroge là-dessus. Elle s'interroge et ce qu'elle va expérimenter ne va pas correspondre.
Alors c'est vrai que la bêtise, la définition de la bêtise, c'est de faire des erreurs de jugement. C'est pas forcément un défaut d'éducation, c'est pas forcément d'être stupide, c'est-à-dire atterré en permanence ou d'être inexpérimenté ou faible comme la débilité. C'est vraiment de faire des erreurs de jugement. Et effectivement, il y a une grande question qui se pose, notamment par rapport à cet amour de la lecture d'Emma, c'est qu'elle ne vit jamais sa vie. Elle est tout le temps, en fait, dans un rêve, dans un fantasme, nourri par les romans qu'elle lit.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu vivre? Elle essaye, Elle essaie de vivre des choses, elle essaie de partir avec Rodolphe.
Alors c'est un des amants qu'elle va avoir, c'est ça ?
Oui.
Enfin, qu'elle va avoir, et ça, ça va être dans la deuxième partie du roman.
Oui, c'est-à-dire que bon, Charles, elle s'aperçoit assez vite que la vie auprès de Charles est décevante. Hein. Charles, c'est son mari, c'est un officier de santé. Elle est donc femme de médecin
provinciale.
Un
peu bête lui aussi.
Alors lui, oui, un peu bête. J'aime pas dire ça de Charles. Oui, un peu bête.
Mais ouais, tout le monde a. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le roman Madame Bovary, quand même, s'appelle Madame Bovary, mais il s'ouvre. Le premier chapitre, vous l'avez dit, Delphine Jaillot, les premiers chapitres où dans lesquels Madame Bovary est presque absente. Le premier chapitre s'ouvre avec Charles Bovary qui entre en classe. Et alors, ce qui est intéressant avec les lecteurs de Flaubert et ceux qui aiment beaucoup Madame Bovary, c'est qu'à chaque fois, Charles Bovary est inattaquable, mais Emma Bovary, on est toujours un peu plus gêné.
Oui, bah, c'est-à-dire on est
tout
un peu
a pitié de Charles.
Oui, mais on est un peu obligé de le défendre parce que là, Flaubert a quand même chargé vraiment les choses. Mais lui aussi fait des erreurs. Charles, par exemple, il va rater monstrueusement une opération chirurgicale. Et il a lu. Alors on peut très bien interpréter aussi ça comme une erreur de lecture. On lui a fait croire que c'était possible. Il a lu les manuels de médecine et évidemment il fallait surtout pas y toucher. C'est l'opération d'un pied beau et puis voilà, on s'aperçoit que ça va être tout à fait catastrophique pour le pauvre Hippolyte qui se fait opérer.
Donc Charles Bovary est bête et simple en fait, il est simple.
Oui, il est simple, c'est la bêtise simple. Et la bêtise simple chez Flaubert, c'est une bêtise qui c'est comme Félicité, hein, c'est
dans
comme
un
Félicité
cœur simple.
Dans un cœur simple, cette forme de bonté-là, ça rachète absolument la bêtise.
Et en ce qui concerne Emma Bovary, alors est-ce que vous arriveriez à dire, pour que le suspense, même si on va décortiquer cette question durant les minutes qui viennent, de quel type de bêtise alors peut relever Emma Bovary ? Parce qu'elle fait des erreurs, elle est agaçante, on a l'impression qu'elle rate des choses, on s'énerve quand on lit Madame Bovary.
Oui, elle se trompe. Alors, elle se trompe sur la question de l'amour. Elle se trompe sur la question du bonheur. Elle a été abusée par des mots. Hein. Le langage l'empêche de vivre. Elle tente des choses, hein, oui, évidemment, mais ça n'est pas forcément couronné de succès. Oui, quand elle veut partir avec Rodolphe, on pourrait vraiment se demander d'ailleurs ce qui se passerait réellement si Rodolphe ne l'avait pas abandonnée, ne l'avait pas laissée. Ils sont censés partir à l'aventure, mais le rêve de cette vie qu'elle pourrait avoir avec lui est peut-être plus fort, évidemment, forcément plus fort et plus beau que ce que ça aurait été. C'est-à-dire que c'est toujours ça chez Emma. Elle désire et la puissance du rêve est tellement forte. Les chimères qui l'environnent sont tellement puissantes que la réalité ne peut qu'être décevante.
Sauf à un moment, Delphine Jaillot, le moment où elle va au bal, dans la première partie du roman, et où là, une des rares fois dans le roman où le rêve et la réalité coïncident, eh bien c'est au moment où elle danse durant ce bal.
Depuis lundi dernier, j'ai laissé de côté toute autre chose. J'ai exclusivement pioché ma Bovary, ennuyée de ne pas avancer. Je suis maintenant arrivé à mon bal, que je commence lundi. J'espère que ça ira mieux. J'ai à faire une narration. Or, le récit est une chose qui m'est très fastidieuse. Il faut que je mette mon héroïne dans un bal. Il y a si longtemps que j'en ai vu que ça me demande de grands efforts d'imagination. Et puis, c'est si commun, c'est tellement dit partout. Ce serait une merveille que d'éviter le vulgaire, et je veux l'éviter pourtant.
L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient. À 3 heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait. Mademoiselle d'Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement vicomte, et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, s'ériflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent, et, d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie, où, haletante, elle faillit tomber, et un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit, au milieu du salon, une dame assise sur un tabouret avait devant elle 3 valseurs agenouillés. Elle choisit le vicomte et le violon recommença.
Madame Bovary, lue par Clémentine Sélarier, c'était la première partie, chapitre 8, le moment du bal. Et ce texte est exceptionnel, Delphine Jaillot, parce qu'on a l'impression que Flaubert, quel que soit l'âge qu'on ait, quelle que soit notre époque, parvient parfaitement à décrire ce moment où on est dans une fête et on est tellement heureux que effectivement l'imagination qu'on avait d'un moment de joie dans la fête se produit au moment même où on l'imagine. Il y a vraiment une coïncidence entre la réalité et notre rêve, et c'est ce que vit Emma. Le problème, c'est que Emma ne s'en remet vraiment jamais en fait de ce bal. C'est grosse descente le lendemain.
Oui, oui, parce que c'est vraiment un moment parfait. C'est un moment parfait. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut rêver d'autre et qu'est-ce qu'on peut supporter? Oui, la déception sera absolument terrible. Et puis il y a ces phrases tout à fait pathétiques. Donc ce fut une occupation que le souvenir du bal. Et puis l'année d'après, elle attend que ça ait lieu de nouveau et elle ne sera pas invitée. Le couple Bovary ne sera pas invité. Ça a été une invitation, comme ça, une fois, et puis ça ne revient pas. Il y a quelque chose de cruel. Parce qu'ils sont invités, c'est un peu un hasard, hein, voilà.
C'est une invitation de courtoisie, de politesse.
Oui, absolument, par quelqu'un qui s'est fait soigner par Bovary et qui, pour le remercier, lui envoie cette invitation. Il a trouvé qu'Emma avait l'air tout à fait de savoir se tenir en société, et qu'elle présentait bien. Et voilà, donc c'est une invitation, mais ils ne font pas partie de ce monde. Et cet émerveillement-là, le bal avait fait un trou dans sa vie. Il y a cette phrase-là, c'est presque comme un traumatisme.
Alors ça, c'est pas de la bêtise, pour le coup. C'est-à-dire qu'on voit bien que, au-delà du cas individuel de Madame Bovary, de cette inadéquation en fait entre ce réel qui ne coïncide jamais en fait avec ses fantasmes, il y a ici, vous l'avez dit, Delphine Jaillot, un problème presque social, de conditions sociales, une question politique. Emma Bovary a envie de faire partie d'un autre monde que le sien. Elle a envie d'être reconnue. Là, il y a un problème que Flaubert souligne très bien à son époque, au XIXe siècle, parce qu'on l'a pas dit, mais le roman est paru en 1857. C'est la naissance de la démocratie et c'est la naissance du mythe de l'ascension sociale, qui n'est d'ailleurs pas forcément un mythe.
Oui, tout à fait. Il y a une phrase d'un critique, Claude Duchet, qui dit d'Emma, paysanne d'origine, aristocrate en désir et petite bourgeoise dans sa vie. Oui, mais c'est aristocrate en désir, petite bourgeoise. C'est déjà une forme d'ascension sociale, si on veut.
Elle qui était fille de paysan, après
oui,
tout.
Oui. Mais ça, c'est toujours très présent hein, chez Flaubert, le fait qu'on le petit bourgeois rêve d'être grand bourgeois, le grand bourgeois rêve d'être aristocrate. Enfin, bon, il y aura ça chez Proust aussi. Hein, il y a pas que lui. Mais donc systématiquement, oui, la condition dans laquelle on est est insatisfaisante.
Mais le signe de là aussi, ce qu'on peut reprocher par rapport à cette dimension sociale et politique que Flaubert travaille, c'est aussi le fait de stigmatiser en fait la bêtise de ceux qui aspirent à plus que ce qu'ils n'ont en fait. Il y a quelque chose presque parfois de méprisant quand on entend quelqu'un. Ou quand on se voit être agacé par Emma Bovary, en fait, on se voit presque en train de mépriser quelqu'un qui aspire à plus qu'elle est, à plus que sa condition.
Oui, alors ça, ce sera tout à fait une des composantes du bovarisme tel qu'il sera théorisé après le roman, hein, puisque la notion est postérieure au roman lui-même. Et avec très souvent le discours critique qui consiste à dire elle avait qu'à ne pas rêver d'autre chose. Bon, mais on peut être tout à fait contre cette prise de position là. D'ailleurs, ceux qui aiment ou admirent Emma Bovary défendent toujours ça. Pourquoi lui refuser ce rêve-là, après tout ? Alors évidemment, à l'époque, c'est peut-être moins évident, mais je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, cette condamnation-là, c'est-à-dire de ceux qui veulent... Enfin, en tout cas, si jamais ils échouent, on ne le leur pardonne pas. S'ils réussissent, très bien, mais quand on échoue à vouloir sortir de sa classe, et que ça se termine en catastrophe, comme dans le cas d'Emma, eh bien, il y a quelque chose qui est un peu de dire, eh bien voilà, presque une position de moraliste, il ne faut pas vouloir autre chose que ce qu'on a.
Oui, alors est-ce que Emma Bovary justement est une figure aussi de la une figure presque repoussoire, c'est-à-dire regardez ce qui peut vous arriver si vous désirez trop, parce que c'est une question de désir. Voilà, quand vous êtes dans le désir de l'amour, d'une condition politique, sociale, d'objet, de beauté, voilà ce qui peut vous arriver. Vous pouvez en mourir.
Oui, il y a cette dimension-là dans Madame Bovary. On peut le lire comme ça, mais comme ça n'est pas une lecture exclusive, évidemment, il y a toujours plein d'autres choses qui viennent contrebalancer ça ou se mêler à ça.
Donc, par exemple, comme quoi ?
C'est-à-dire qu'il n'y a, il n'y a pas véritablement de conclusion à cette œuvre. Si on regarde une fable de La Fontaine, la grenouille qui se veut faire plus grosse que le bœuf, oui, ben voilà, elle aussi, elle aspire à être autre qu'elle n'est. Ça se termine pas bien pour elle. Et tout le monde comprend que c'est ça qui est derrière. Perrette et le pot au lait, voilà, il fallait pas rêvasser et imaginer qu'on allait avoir tout ça parce que le lait est tombé sur le sol. Avec Madame Bovary, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si c'était uniquement cette question de volonté de changer de classe sociale, je pense que ça ne susciterait pas toutes ces interrogations-là. Donc il y a cette dimension-là, on peut le lire comme ça, mais il y a toujours autre chose.
Alors quelle est cette autre chose justement et qui se cristallise en fait autour de ce débat d'une certaine manière autour de la bêtise ou pas d'Emma Bovary en fait, ou alors plutôt de quand on demande Emma Bovary est-elle bête, en fait on se demande qui elle est, en fait. Est-ce qu'elle fait défaut à une image qu'on se fait de la femme, qu'on se fait de la petite bourgeoise, qu'on se fait peut-être d'un caractère qu'on a nous-mêmes imaginé, en fait. Est-ce qu'elle est en défaut ou est-ce qu'elle est en excès par rapport à l'idée qu'on a d'elle ?
Il y a une phrase de Flaubert dans sa correspondance qui peut s'appliquer à Emma, et il l'applique d'ailleurs plus ou moins à Emma. Il parle des femmes quand il dit ça, et il leur reproche, il le reproche à Louise Collet, sa maîtresse, c'est la confusion du cœur et de la culotte, c'est-à-dire le fait de prendre la phrase exacte, prendre son cul pour son cœur et croire que la lune est faite pour éclairer son boudoir. Voilà, la bêtise d'Emma, peut-être qu'elle se situe là.
Pas de prendre ses rêves pour la réalité, mais de prendre sa culotte pour son cœur, son cul pour pour son cœur, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Rodolphe, l'un de ses amants, tout à fait cynique, va dire qu'il ne comprend pas bien pourquoi tout se trouble dans une chose aussi simple que l'amour. Mais peut-être que pour Rodolphe, les choses sont tout à fait séparées. Il y a le cœur, éventuellement, mais chez lui, il n'est pas très présent. Et puis il y a la culotte, voilà. Et donc il arrive à faire une distinction qui l'arrange. Chez Emma, c'est beaucoup plus compliqué. Elle confond le désir. Au fond, elle ne cesse de se demander ce que c'est que cette histoire d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour, en fait? C'est peut-être ça aussi qui nous parle. C'est-à-dire qu'elle cherche, elle se heurte, elle se cogne à cette question-là. Comment faire coïncider le désir et
l'acte? Et,
oui, absolument. Le lendemain de la nuit de noces avec Charles, vraisemblablement, c'est pas ça. C'est-à-dire que lui, j'ai pas exactement la phrase en tête, hein, mais lui a l'air d'une jeune mariée, et elle non. Elle, il y a un masque. On ne sait absolument pas ce qui s'est joué. Et certainement, de manière très subtile, Flaubert raconte ça au moment de ce qu'il appelle la baisade, ce qu'il appelle dans les brouillons, hein, oui. Pas dans le texte définitif.
Oui, je me souvenais pas de ce mot.
La baisade avec Rodolphe, quand Rodolphe emmène Emma dans la forêt, la promenade à cheval, et puis ce moment d'amour absolument merveilleux pour elle, hein, comme le bal.
Oui,
hein,
là, c'est voilà, vraiment c'est... les deux climax dans la vie d'Emma, hein, le absolument. Bal et la baisade avec Rodolphe.
Absolument. Et c'est marrant parce que ces deux événements-là, alors, ont à la fois été rêvés, anticipés, et surtout, ils provoquent quelque chose dans l'après-coup qui est un souvenir qui est aussi beau presque que la chose qui a eu lieu. Et c'est terrible parce que ce souvenir, à un moment, ça me nuise et puis...
ça laisse un trou, comme vous disiez à propos du bal. Alors, on a parlé de Charles, on a parlé aussi de Rodolphe, mais il y a aussi le personnage de Léon que Emma rencontre une fois qu'ils ont déménagé avec Charles. On va entendre leur rencontre qui se passe autour d'une discussion sur la lecture.
Si madame aime le jardinage, elle pourra. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire.
C'est comme moi, répliqua Léon.
C'est comme moi. Quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle.
N'est-ce pas ?
On ne songe à rien, les heures passent, on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages, il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous est-il arrivé parfois de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié?
J'ai éprouvé cela.
C'est pourquoi j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer.
Cependant, ils fatiguent à la longue. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent, tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature.
En effet, ces ouvrages ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idées sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources.
Comme Tost, sans doute. Aussi, j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture.
C'est ainsi, l'un après de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qu'ils ne connaissaient pas.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Madame Bovary, deuxième partie, deuxième chapitre, cette rencontre entre Emma et Léon est géniale autour de la lecture. Il y a quand même cette phrase de Emma que j'ai soulignée, qu'on a entendue Delphine Jaillot. Elle dit « J'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature. » Ce qui est quand même très drôle quand on repense aux extraits de correspondance de Flaubert qu'on a entendus tout à l'heure, où il disait « Je n'en peux plus, j'ai le dégoût de ces sujets communs » ou quand Flaubert parlait du bal comme d'un moment vulgaire qu'il fallait décrire et qui était une vraie tannée pour lui. En tout cas, on retrouve Delphine Jaillot dans cet extrait « L'attachement d'Emma Bovary à la lecture » et on retrouve aussi peut-être, alors non pas là le signe d'une bêtise, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser, Delphine Jaillot, est-ce que Emma n'est pas plus intelligente que les autres et est-ce que ce ne sont pas les autres qui sont complètement à côté de la plaque? Son mari, Rodolphe, celui qui n'aimait pas Léon, dans ce cas-là, pas encore Léon en tout cas.
Pas à ce moment-là.
Ouais.
Il deviendra veule plus tard et un peu bête, mais pas encore peut-être à ce moment-là. Alors en tout cas, ce que vous dites, c'est la vie de George Sand, hein, parce qu'elle dit dans la critique qu'elle va faire de Madame Bovary, juste après 1857, elle va dire que justement Emma est seule intelligente dans cette réunion de crétins.
C'est vrai.
Voilà. Et donc, en effet, quand on regarde les autres personnages, il y a une sacrée bêtise qui l'entoure, c'est évident. Si c'est l'abbé bournisien, c'est de la bêtise épaisse, hein, absolument incapable de comprendre la souffrance d'Emma qui vient le voir avec une vraie demande, mais il est incapable de reconnaître ça. La bêtise du pharmacien Homais, une bêtise arrogante. La bêtise de l'heureux, le marchand qui va la faire courir à sa perte. Bêtise cupide. Oui, elle est entourée de bêtises. La bêtise de Charles aussi un peu, qui ne voit pas, qui ne comprend pas, qui ne se doute pas qu'elle a besoin d'autre chose, qu'elle a besoin de parler, peut-être aussi, parfois tout simplement. Il ne sait pas encore écouter, voilà.
Mais il a sous-estimé aussi sa femme. Les personnages sous-estiment en fait Emma Bovary, en fait, ne se doutent pas, hormis Léon à ce moment-là qui discute avec elle à égalité d'un sujet qui leur plaît à tous les deux. D'ailleurs, on l'entend très bien à la fin. Il parle au centre fixe d'une sympathie commune. On voit bien qu'il y a quelque chose, ils se comprennent, ils sont à égalité. Mais en fait, les autres ne comprennent pas Emma Bovary. Ça n'est pas forcément seulement Emma Bovary qui fait des erreurs de jugement, qui ne comprend pas le monde qui l'entoure, qui se trompe. C'est vraiment aussi qu'Emma Bovary est incomprise, n'est jamais vue à sa juste valeur.
Oui, ils sont tous de toute façon d'un égoïsme. Enfin, ils sont dans leur monde. Il y a pas du tout de pas vers l'autre. Elle est dans une solitude aussi. Hein. Emma Bovary, elle est dans une solitude terrible tout au long du roman. Elle n'a comme confident que sa petite chienne, Jali, dans la première partie. Voilà.
C'est un peu triste.
Oui, elle faisait bien des confidences à sa levrette. Voilà, mais bon, là, il y a l'ironie, évidemment, de Flaubert. L'ironie, mais en même temps, l'empathie. C'est-à-dire que Flaubert comprend absolument cette souffrance et il l'a décrit. Il l'a décrit, cette souffrance. Il en tient compte.
Alors il y a quand même un débat justement sur cette dimension en fait de la lecture chez Emma Bovary où en fait on se demande en fait si ça l'a corrompue. C'est quand même d'ailleurs aussi pour ça que le texte de Flaubert n'a pas plu dès sa publication. C'est parce que il y avait quand même aussi cette idée que la lecture pouvait corrompre et que la lecture d'Emma Bovary pouvait justement elle aussi corrompre. Alors que ce qui pose cette question d'Emma Bovary, est-ce qu'elle est finalement trop intelligente, trop cérébrale et donc incomprise, ou au contraire, puisqu'on a parlé quand même beaucoup d'amour d'Delphine Jaillot, est-ce qu'elle est beaucoup trop dans les sens, une sorte d'exacerbation des sens et de sa sensualité?
Alors ça, c'est un débat qui a eu cours dès la parution et dans toute la critique, alors principalement masculine, hein, bien sûr. Il y a George Sand, on a un article de George Sand, mais sinon la critique est majoritairement évidemment masculine. Et il y a ce débat où on cherche à cerner ce personnage qui scandalise de toute façon. Et certains vont développer la thèse d'un sensualisme. Voilà, dire ben, elle est sensuelle et la condamner pour cela. Parce qu'évidemment, c'est un risque pour le mariage, cette trop grande sensualité, présence de la sensualité, d'appel des sens. Et puis une autre thèse contradictoire qui est celle de la cérébralité. Elle est trop cérébrale, elle a lu, elle rêve, et donc elle est dans une imagination qui est également tout à fait dangereuse. Et peut-être que pendant tout un certain temps, on ne comprend pas ce qu'a fait Flaubert, qui est justement peut-être lui quand il dit prendre son cul pour son cœur, c'est-à-dire, bon, il devrait peut-être pas dire ça, mais dire il a mis les deux à égalité, ou en tout cas c'est ça qui est peut-être tout à fait neuf aussi, enfin une des choses qui est peut-être tout à fait neuve, c'est-à-dire que la coexistence des deux. Voilà, une femme peut à la fois être désirante physiquement et mentalement et de manière cérébrale et les deux une histoire presque de définition de la libido hein, finalement chez
oui c'est vrai il y a la libido il y a du désir
oui. Mais libido au sens large, hein, c'est-à-dire énergie désirante, elle est cette énergie désirante, Emma.
Donc, c'est pour ça que ça a scandalisé à l'époque, parce qu'il faut quand même le rappeler, quand il est sorti en 1857, Madame Bovary, il a été immédiatement poursuivi en justice, donc on était sous le Second Empire, pour cause d'outrage à la morale publique, religieuse et aux bonnes mœurs. C'est pour ça.
Oui, c'est pour ça.
Parce que Emma n'était pas un bon modèle féminin
Parce que c'était un texte tellement fort, très certainement, que c'était scandaleux. Finalement, ça a été très bien lu, trop bien lu. C'est-à-dire que Si ça avait été juste une femme adultère, ça n'aurait pas créé ce trouble-là. Si ça avait été juste une femme chimérique, non plus. Mais c'est-à-dire que là, il y avait une complexité très importante et oui, quelque chose d'un peu dévastateur.
Et puis vous parlez de complexité, on a posé la question tout à l'heure Delphine Jaillot de Emma Bovary est-elle bête? Mais enfin, avant d'abord de définir ce type de bêtise ou pas, ou de trancher la question, déjà, qui est-elle? C'est-à-dire qu'il y a la question de l'identité. C'est ça qui rend aussi la lecture de Madame Bovary et qui la rend presque scandaleuse. C'est-à-dire que même quand on la lit aujourd'hui, scandaleuse, je ne parle pas d'outrage aux bonnes mœurs, mais vraiment, on est scandalisé finalement de ne pas se faire un avis tranché sur elle, de ne pas se dire elle correspond à tel type de personnage ou à tel stéréotype.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle adopte tour à tour des identités qu'elle se crée, qu'elle cherche, finalement comme nous tous, hein, comme nous toutes, nous tous. Il y a une vraie question derrière sur l'identité, c'est-à-dire que elle est toujours en excès par rapport à l'identité qu'on pourrait lui assigner. C'est un texte qui Madame Bovary, c'est un texte qui aspire au sens de à chaque fois qu'on croit avoir compris, il peut y avoir une thèse concurrente pour nous montrer que non, c'est pas tout à fait ça. Et finalement, oui, qui est-elle? Elle ne le sait pas elle-même. Elle cherche et elle nous invite à chercher aussi. Et c'est une très belle réflexion sur qui nous sommes, mais qui nous sommes sur finalement, ça n'est peut-être pas la question la plus intéressante, ou en tout cas, ça n'est pas comme ça qu'il faut poser la question, parce que l'identité, après tout, ça n'est pas ça qui va résoudre le problème, c'est-à-dire savoir qui l'on est. C'est très bien de ne pas savoir qui l'on est, et finalement, Emma Bovary nous raconte ça aussi.
Et puis il y a ce moment, très peu de temps d'ailleurs après que Emma a rencontré Léon, elle est enceinte et donc Emma accouche, et il y a une grande question sur le sexe de l'enfant qu'elle va avoir. On entend, on va écouter ce passage, Delphine Jaillot.
Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais, ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau à nacelle avec des rideaux de soie rose et de béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ses préparatifs, où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection dès l'origine en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles à tous les repas parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun, et s'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche vers 6 heures au soleil levant. « C'est une fille, » dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit.
Voilà voilà la lecture, pardon, de l'accouchement d'Emma Bovary. Là, c'est la grande déception quand même d'Emma d'avoir une petite fille. Ce moment est terrible, le moment où elle découvre qu'elle a une fille. Mais on comprend à ce moment-là, en fait, toute la charge qui pèse sur elle parce qu'elle est une femme, parce qu'elle se dit qu'être une femme dans ce monde n'est pas chose facile, voire chose même plutôt une chose tragique. Et là, on retrouve quand même, j'irai pas à une réflexion féministe de Flaubert parce que je pense que ce serait un petit peu déplacé et anachronique, mais il y a quand même quelque chose là que nous dit très bien Flaubert, c'est la difficulté à être une fille dans ce monde-là au XIXe siècle.
Oui, complètement. Indéniablement, il y a cette dimension-là aussi. Et on comprend bien sûr qu'il y ait pu y avoir des lectures féminines ou féministes qui pointent ça. C'est tout à fait évident. Elle pose la question, Flaubert pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme au XIXe siècle, et toutes les questions qui vont avec, c'est-à-dire aussi la question de la réalisation de l'amour dans le mariage, mais la question de la maternité aussi, être femme et être mère, qui est quelque chose qui doit aller de soi. Bien sûr, là, Flaubert nous montre que ça peut ne pas aller de soi. Ça aussi, c'est tout à fait scandaleux pour l'époque.
Oui, de dire qu'une mère peut ne pas être heureuse, qu'une femme peut ne pas être heureuse d'être mère.
Oui, que ça ne va pas de soi.
C'est vrai qu'Emma Bovary fait exploser toutes les étiquettes qu'on accole aux femmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas heureuse quand elle est au couvent, ou en tout cas, elle aspire à mieux. Elle n'est pas heureuse quand elle est mariée, quand elle est amante, maîtresse, elle est déçue. Après, un climax, c'est quand même aussi la descente. Elle n'est pas heureuse en tant que mère, elle n'est pas heureuse en tant que consommatrice qui dépense tout dans des objets mais ne s'en satisfait jamais. Mmh. Ça va être quand même tout le centre de la troisième et dernière partie de Madame Bovary. Finalement, c'est une perpétuelle insatisfaite. Mais dire ça, ce serait encore presque stigmatisant. Pour Madame Bovary, dire qu'elle est juste insatisfaite, ce serait presque réactiver un cliché autour des femmes.
Oui, c'est réactiver un cliché autour des femmes, ou alors c'est si on prend l'insatisfaction dans un autre sens, c'est faire de l'insatisfaction la condition même du désir, enfin, c'est-à-dire, oui, pouvoir se dire que c'est la structure du désir que d'être insatisfait. Et en ce sens, c'est une grande figure désirante. C'est la figure du désir, Emma Bovary.
Alors, il y a presque, dans ce que vous dites, Delphine Jaillot, presque une dimension psychanalytique d'Emma Bovary. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec ce personnage s'ouvre aussi la voie vers justement la question du désir, la question de la libido, la question des conflits en fait entre de personnalités. Et Emma Bovary, parfois mal interprétée, trop réduite à une dimension pathologique psychiatrique, a néanmoins des choses à dire en fait de ce point de vue-là.
Oui, je crois que ce sera dit un tout petit peu plus tard par la psychanalyse, mais là, Flaubert annonce ça. Il a absolument perçu ça, et il perçoit aussi surtout cette souffrance-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension de souffrance qui dans la psychanalyse sera causera la nécessité de l'écoute, hein, de l'écoute pour sortir de simplement l'assignation à une maladie ou une autre, et trouver un nom et et un remède qui ne fonctionne pas. Voilà.
C'est vrai qu'on a associé Emma Bovary, par exemple, à travers diverses interprétations, à la paranoïa, au spleen, à la neurasthénie. En 1892, Jules de Gautier parle du bovarisme comme d'une pathologie qui décrit un conflit entre deux instances, le moi réel et le moi imaginaire. Au XXe siècle, on reprend encore cette analyse en parlant d'une impuissance du sujet à s'adapter à la réalité. Mais surtout, il va y avoir quand même Lacan, où là on va plus être dans le domaine de la psychiatrie mais plus de la psychanalyse, qui va voir en Emma Bovary le drame de la personnalité. Et là, ce n'est pas du tout une question de pathologie, c'est un conflit, dit-il, entre l'idéal et l'identification. Le problème d'Emma Bovary, si on doit trouver un problème qui n'est pas réglable avec, avec l'identité, ce problème, c'est qu'Emma Bovary se croit. Emma Bovary n'est faite que de croyances sur elle-même. Elle s'y croit, d'une certaine manière.
Oui, il a cette très belle phrase, oui. S'y croire, hein, se croire autre que l'on est, ça c'est la définition de Jules de Gautier, c'est la définition qu'il donne du bovarisme. Hein. Il est le théoricien de cette notion-là, donc à la fin du 19e siècle, hein, 1892. Et puis Lacan, qui était un grand lecteur de la, donc connaissait Jules de Gautier, hein, connaissait l'œuvre de Jules de Gautier, et la commente en associant finalement le drame du bovarisme au drame de l'identification. On avait parlé tout à l'heure de l'identité. C'est pas très intéressant de se poser la question de l'identité, mais ce qu'il peut-être que le drame d'Emma Bovary, oui, se situe beaucoup plus du côté de l'identification, parce que si on parle d'une identité stable qui permettrait de se repérer, sur quoi on s'appuie pour ça? C'est quoi l'identité? C'est l'identité sociale? C'est l'identité héréditaire? De quoi on parle? Alors que, bon, l'identité, c'est ce qui se construit à partir d'identification. Éventuellement, on peut proposer ça comme définition.
Alors, il faut dire, Delphine Jaillot, et on arrive bientôt au terme de cette émission, il faut dire quand même que Flaubert est fasciné par la question de la bêtise. On s'est posé la question par rapport à Emma Bovary, on a parlé de Charles Bovary, de Rodolphe, Léon, toute la médiocrité qui entoure Emma Bovary, on a parlé de Félicité dans son très court texte Un cours simple, mais il faut quand même qu'on parle de Bouvard et Pécuchet, c'est l'occasion d'en entendre un tout petit extrait.
Pécuchet se tourna vers les fleurs. Toutes ses expériences ratèrent. Il était chaque fois fort étonné. Mais Bouvard, comme lui, rencontrait des obstacles.
Que faire, hein, mon bon ami, que faire? Es-tu toujours partisan des jachères, Pécuchet? Ça me paraît un préjugé gothique.
C'est ton opinion. Cependant, Leclerc note les cas où elles sont presque indispensables. Tulle exalte les labours au préjudice des engrais. Eh bien, je n'en crois rien. Et la preuve, c'est que nous allons nous lancer dans la culture intensive en utilisant les engrais.
Dans la fosse au compost furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, tout ce qu'il pouvait découvrir. Il employait la liqueur belge, le lisier suisse, la lessive, des harengs sourds, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d'en fabriquer, et poussant jusqu'au bout ses principes, il ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. Il supprima les lieux d'aisance.
À ceux qui avaient l'air dégoûtés, il disait
« Mais c'est de l'or! Mais c'est de l'or !»
Tout le monde peut s'accorder à dire que Bouvard et Pécuchet sont un peu bêtes, à vouloir, dans leur espèce d'expérience comme ça, agricole, à vouloir faire, en fait finalement, à s'y croire eux aussi, comme Emma Bovary, et en même temps, ils sont quand même attendrissants. Flaubert, qui aimait tant la bêtise, ou en tout cas qui aimait tant détester la bêtise, hein, on le retrouve aussi dans son dictionnaire des idées reçues. Est-ce que finalement, à travers tous ces personnages, que ce soit Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary, Charles Bovary, Félicité, finalement, est-ce que la bêtise n'était pas son plus grand objet d'étude?
Peut-être, oui, la bêtise comme le fascine tout autant qu'elle l'exaspère absolument. Et alors Bouvard et Pécuchet, avant d'être bêtes, alors eux aussi ils se heurtent au réel. Hein, le réel ne leur permet pas n'atteste pas toujours ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils essaient de trouver, d'expérimenter. Mais ce sont des curieux, ça c'est quand même très beau. Là aussi, ou pas uniquement la question de l'amour qui les intéresse. Il y a plein d'autres questions, mais c'est ça. Ce sont des personnages désirants. On en revient là, des personnages. La curiosité, c'est du désir.
On pourrait presque se demander, Delphine Jaillot, si finalement la question, c'est pas Madame Bovary est-elle le personnage le plus bête de la littérature, mais est-ce que le désir nous rend bête?
Ah, alors...
Est-ce que c'est pas ça, en fait, la question qui fascine Flaubert?
Si, bien sûr, le désir nous rend bête, le langage nous rend bête. Le bonheur est un mot inventé par le diable pour nous désespérer. Oui, on va chercher le bonheur, mais on est pris dans le langage qui va nous couper de toute façon du réel et nous empêcher de l'atteindre directement. Alors on ne peut qu'en jouir indirectement, maladroitement, se tromper, recommencer, je ne sais pas.
Un petit peu comme Emma Bovary qu'on peut lire ou relire. Merci beaucoup Delphine Jaillot de nous avoir parlé de Emma Bovary avec cette question pas facile et volontairement provocante. Est-elle le personnage le plus bête de la littérature? À vous de vous faire une idée donc en lisant Madame Bovary. Le texte est disponible dans de multiples éditions. Et nous, on a travaillé avec les éditions Gallimard. Merci beaucoup Delphine Jaillot.
Merci, merci à vous.
C'était une provinciale et elle s'appelait Emma. Dans la Normandie matinale, quand les vaches ruminent déjà, quand la brume s'étire sur les champs, elle cachait ses yeux sous les draps et disait à celui qui n'était jamais là. Je m'appelle Emma et je ne sais pas si jamais cœur Emma aussi fort que moi. Je m'appelle Emma, alors aime-moi, moi Emma. Les jours se déroulaient banal et la radio n'existait pas. Imagine les gens qui regardent au silence derrière les rideaux. Son mari qui l'oublie un peu. Et un jour, un homme a surgi et sans fin cet amour dont elle rêve quand elle dit Emma. Je m'appelle Emma et je ne sais pas si jamais cœur Emma aussi fort que moi. Je m'appelle Emma.
Je sais que vous rêvez de réécouter cette chanson, et bien c'est Nicole Croisy qui interprète Emma. Je m'appelle Emma, tout simplement. Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Nicolas Berger, prise de son Marie-Claire ou Mabadi. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.